Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma, réalisée sur Fréquence Protestante par l'association Profil. Profil, je le rappelle, signifie protestant filmophile. Et comme son nom l'indique, l'association est d'origine et d'inspiration protestante et a pour centre d'intérêt le cinéma. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Elisabeth Pérez. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Jacques.
Par Tatiana Zazulinski. Bonjour Tatiana. Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
L'objectif de cette émission est de présenter quelques films que nous avons jugés importants, sortis ce mois-ci, et d'en débattre. Nous en avons choisi trois, d'origine et de contenu comme de facture très différents. On aura ainsi l'occasion de parler de deux films américains, de réalisateurs bien connus, The Master de Paul Thomas Anderson et Django Unchained de Quentin Tarantino. Mais aussi d'un film sans doute moins connu, La Parade, d'un réalisateur serbe, Tran Dragojevic. Et nous compléterons par la présentation de quelques coups de cœur, de nos intervenants. Alors commençons par The Master. Il a été abondamment primé à la Mostra de Venise avec le Lion d'Argent et les prix d'interprétation masculine à ses deux principaux interprètes, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Paul Thomas Anderson, un petit génie du cinéma puisqu'il est né en 70 et il a connu un succès déjà assez considérable avec Magnolia, Ours d'or au Festival de Venise en 2000, donc à 30 ans. Il a sorti There Will Be Blood en 2007, qui est une sorte de western sur les débuts de l'industrie du pétrole et qui fut un immense succès critique et commercial. Et avec The Master, il continue à peindre des époques de l'histoire américaine. Ici, nous sommes dans l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est un grand film, peut-être un peu long. Je dois dire qu'il m'a un tout petit peu déçu par rapport à There Will Be Blood, sans doute parce que le scénario est un peu moins solide, serré que celui de son précédent film. Mais ce film, par ailleurs, multiplie les images somptueuses et ses deux interprètes principaux crèvent l'écran. Alors, Elisabeth, qu'en as-tu pensé ?
Oui, alors, c'est une étrange époque hein, que celle de l'Amérique d'après-guerre, avec une domination économique grandissante, mais aussi qui est toujours en quête d'errement spirituel et qui, à cette époque, a vu fleurir outre-Atlantique, nombre de mouvements, de communautés qui prônaient un nouveau dépassement. Alors, dans ce contexte spécifique, Paul Thomas Anderson décrit des relations très très complexes qui s'installent entre deux personnages aussi décalés que l'autre, et nous, spectateurs, on est en permanence intimement liés aux protagonistes. Alors, qui sont ces personnages, justement ? D'abord, Philip Seymour Hoffman, Lancaster Dodd, en maître gourou d'une secte un peu diabolique, penseur charismatique, à la tête d'un petit groupe qui sert la cause, c'est le nom de son organisation. Il sillonne le pays en prétendant soigner, bien sûr, les âmes en souffrance. Et d'un autre côté, on a Joaquin Phoenix, Freddy, qui est son disciple, qui est un ancien marine, alcoolique, traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, totalement inadapté à la vie civile, qui est violent, il est sujet à des obsessions sexuelles, il est adepte de cocktails hallucinatoires qui se fabriquent lui-même, voilà. Et donc on suit son face-à-face hallucinant et fascinant entre un gourou et son disciple, et ce face-à-face nous amène à une réflexion sur la liberté et la manipulation dans l'exploration des rapports qui sont noués entre ces deux hommes. L'un qui veut remodeler l'autre, en le débarrassant de ses névroses, et le second qui ne cesse de se soustraire à l'emprise du premier, auquel pourtant ils se sont très liés. Il y va, il n'y va pas, il y revient, il part. Donc tout le long du film, on assiste à ce balai entre les deux. Et d'un bout à l'autre, on suit cette opposition dominant-dominé, lien de maître à esclave, les rôles se complètent, ils s'inversent, voilà. Et outre cette opposition sur le mental, Paul Thomas Anderson nous montre aussi une opposition sur les physiques, avec un Philip Seymour Hoffman qui est imposant, qui est bien en chair, et Joaquin Phoenix qui a dû perdre bon nombre de kilos, ne serait-ce que par rapport à son dernier film, pour arriver à un état de maigreur extrême à la fin. Et donc on prend part à cette expérience très troublante, au risque de perdre tout repère, on suit des tâtonnements et on se demande comment ça va se terminer. Donc on dit que c'est plus ou moins inspiré de Ron Hubbard, le fondateur de l'église de Scientologie, et donc je ne sais pas, en tout cas on se laisse entraîner, ou pas du tout d'ailleurs, par ce film aussi fascinant que déroutant, qui ne se laisse laisse jamais enfermer dans des schémas prévisibles. Double prix d'interprétation, hein, tu le disais, Jacques, pour Philippe Seymour Hoffman, qui est riche de toutes les ambiguïtés dont le comédien est capable, et on se souvient de lui dans The Truman Capote, et Joaquin Phoenix, qui est totalement possédé par son rôle.
Oui, oui, tu l'as dit, je crois que le sujet n'est pas vraiment la secte, hein, c'est vraiment l'interfonctionnement, la relation entre ces deux personnages. Jean ?
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth, mais je suis aussi d'accord avec toi en ce sens que le scénario m'a laissé un peu un sentiment désagréable, en particulier la fin qui se termine un peu en eau de boudin, on sait pas trop bien si c'est oui, si c'est non. Et c'est vrai que c'est un peu la mode actuellement dans le cinéma de pas terminer les films. Et là, ça m'a gêné.
Oui, mais c'est par ailleurs un film dont on a dit il a des images absolument magnifiques. C'est aussi un film qui est assez drôle à certains moments.
Oui.
Le personnage Lancaster Dodd, le gourou, est plutôt ridicule et la démesure de Freddy pousse souvent au burlesque. Elisabeth. Tatiana.
Eh bien, moi, j'ai bien aimé The Master, et surtout que Paul Thomas Anderson, qui prend son temps toujours pour filmer, a choisi à cette ère où tout est en numérique ou en 3D, il a choisi le 70 mm. Et ça donne une image très très belle, très léchée, avec une espèce de patine à l'ancienne qui convient très très bien à ce film. Et je trouve que, en plus de tous les prix qu'il a reçus à Venise, il aurait pu en plus avoir le prix de la photo.
Oui, il y a des photos magnifiques, il y a des photos récurrentes de la mer, la scène dans la prison est absolument superbe, il y a beaucoup de belles photos. Et au-delà des réminiscences cinématographiques, moi, il m'a fait penser aussi à Steinbeck, l'époque, le style. Ce qui se passe dans les champs de coton, par exemple, c'est une bonne reconstitution de l'Amérique de cette époque. Alors, passons à un film très différent et dans des lieux très différents, La Parade. Donc le réalisateur Strajan, alors j'ai beaucoup de mal avec ces noms serbes où il y a 6 ou 7 consonnes de suite là, Dragojevic est donc serbe, il est né en 1963 et il a réalisé ses premiers films dans les années 90, des comédies qui ont connu un certain succès, un bon succès commercial même. Après un passage assez peu productif par contre par Hollywood, il revient en 2003 en Serbie et il réalise notamment Saint-Georges tue le dragon en 2008, un film qui est assez différent et qui a pour cadre la Première Guerre mondiale. Alors La Parade a été présentée dans une section parallèle à Berlin, il a reçu une mention spéciale du jury œcuménique, je crois qu'il a reçu d'ailleurs plusieurs prix depuis. Et il raconte l'histoire assez improbable d'un gangster machiste réunissant une équipe de gros bras pour assurer la sécurité de la première gay parade de Serbie. Alors c'est une farce, parfois énorme, mais sur des sujets sérieux, l'homophobie de la société serbe et la fraternité possible ou impossible entre les peuples de l'ex-Yougoslavie. Alors on peut rejeter ce film pour ses invraisemblances et pour la lourdeur de certains de ses gags, mais on peut aussi y trouver une certaine poésie et un message de fraternité. Tatiana, je crois que tu fais partie des enthousiastes.
Non. J'ai beaucoup apprécié ce film pour diverses raisons. Mais d'abord, quel cinéaste un peu déjanté aurait eu l'idée de proposer à un producteur hongrois, un producteur serbe, un croate, un slovène et un allemand de travailler ensemble? Eh bien, c'est le réalisateur, Srdjan Dragovic, lui, qui l'a fait. Le résultat, c'est La Parade. C'est pas un film politique, c'est pas un documentaire sur les Balkans, c'est une comédie. Alors, sur les premières images, avec un fond sonore de la sarabande de Handel, très dramatique, une adorable Austin Mini Rose franchit la frontière de Bosnie-Herzégovine. Sur le panneau, un tag. Tchetnik, rentrez dans vos bois. Ça donne le ton. Suit une série de sous-titres pour tenter de débrouiller l'imbroglio des relations interethniques de cette production. Tchetnik, terme péjoratif pour désigner un Serbe employé par les Croates, les Bosniaques, les Albanais du Kosovo. Oustachi, terme péjoratif pour désigner un Croate employé par les Serbes, les Bosniaques et les Albanais du Kosovo. Shkiptu, terme péjoratif pour désigner un Albanais du Kosovo employé par les Bosniaques, les Croates et les Serbes. PD, terme péjoratif pour désigner un homosexuel employé par tout le monde. On comprend que ça ne sera pas facile pour Lemon, un Serbe de Belgrade, homophobe, casseur de Rome et de PD, un monstre de muscles et de poils qui n'a que 2 faiblesses. Ce sont ces 2 failles dans sa cuirasse qui vont le conduire à sa perte. entendez par là la perte de toutes les valeurs immuables auxquelles il consacre sa vie. Et nous allons voir le film le plus déjanté de la décennie, à part peut-être Django Unchained, mais ça, c'est une autre histoire. Eh oui, le problème de Lemon, son talon d'Achille, c'est qu'il aime. Il aime Susucre, son hideux bulldog, et il aime Perle, sa fiancée, une maîtresse-femme aussi douée que lui pour les arts martiaux. À la suite de quels avatars Lemon est-il amené à assurer la protection de la première guéparade de Belgrade? Vous le saurez en allant voir le film. Pour vous aider à le décrypter, disons que Parade, c'est un peu un remake des Sept Mercenaires, où les vaillants guerriers assuraient la protection des gentils paysans. Comme Yul Brynner, Lemon a du mal à rassembler une équipe pour lui prêter main forte, et aucune aide à attendre de la police qui fait la baston pour son propre compte. Petit flashback, la mini-rose du début, c'est celle de Rod Milo, vétérinaire plus gai que gai, et sauveur de Susucre, le très laid bulldog du début, blessé par balle par un truand. Il accompagne Lemon dans sa quête, disons plutôt son casting de gros bras. Lemon n'a plus d'autre ressource que de contacter ses ennemis héréditaires de naguère, ses frères d'armes. Aux Serbes machos débordant de testostérone se joindront un Albanais du Kosovo, dealer d'héroïne, un bistrotier croate bagarreur, un musulman bosniaque véreux. Tout ce petit monde se prépare à l'affrontement. Et petit à petit s'amorce un revirement dans le mépris des gros durs envers les chétifs homosexuels. Car ils doivent le reconnaître, ils ne manquent pas de courage. De leur côté, les gays organisateurs s'amusent à mettre leurs défenseurs en face de leurs contradictions. À quoi ressemble leur démonstration d'amitié virile sur fond de lutte au sol et d'empoignades monstrueuses? Et plus douloureux pour les mercenaires, c'est le décryptage qui leur est fait, projection à l'appui, de la composante homosexuelle des relations de leur héros absolu, Ben-Hur, avec son ami Masada. Vous pouvez vous en douter, ce film excessif en tout ne fait pas dans la dentelle. Mais on rit beaucoup. Or on sait depuis le dictateur de Chaplin que la comédie est un excellent moyen de faire passer un thème grave. La parade rappelle la situation des gays en Serbie, constamment passés à tabac, voire assassinés, et dont le premier défilé en 2001 se termina dans un bain de sang. Plaidoyer pour la tolérance et le droit à la différence, La Parade, film utile et optimiste, convainc malgré ses excès, à moins que ce ne soit justement grâce à ses excès.
Alors, un film, comme vous avez compris, assez fort, assez gros. Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, mais ce que j'ai trouvé très intéressant et qui est très, très bien montré, c'est que finalement, toutes ces violentes réactions contre cette manifestation ont amené à une alliance improbable entre les membres de différents groupes ethniques et des activistes gays que tout semble opposer, en fait, que tout oppose. Et le deuxième point intéressant, c'est que Dragojevic fait de la transgression un ressort comique, parce que c'est un film qui s'amuse des clichés, qui montre des stéréotypes, tout en portant un regard sur les stratégies de survie de la communauté gay en Serbie, ainsi que sur une société encore divisée par des années de guerre des Balkans. Et ce film reprend ironiquement à son compte la question d'un dialogue régional à renouer. Voilà, moi j'ai bien aimé ce film, et pour la petite histoire, je ne sais pas s'il est vraiment très, très bien distribué, mais en tout cas le maire de Dubrovnik a dit que le film sortirait dans sa salle municipale à la fin de sa reconstruction. Donc, je ne sais pas si elle est reconstruite aujourd'hui.
Alors, Jean,
oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film. On a beaucoup ri, on s'est vraiment bien amusé en regardant. Et surtout, je garde le souvenir de la tête de Citron quand il se rend compte que son héros, Ben Hur, et qu'il adore. Et les autres lui disent, mais tu sais, je crois qu'il est un petit peu gay par moment. Et vraiment, de voir cette tête, ce type, ce macho, se rendant compte que Ben Hur, ma foi, est limite, ça vaut le dépassement.
Non, tout à fait. Ça, c'était une des scènes, je dirais, assez intéressantes et assez subtiles du film. Il y en a qui sont dans le comique beaucoup plus gros, mais là, on est dans un comique assez intéressant. Alors, passons à quelque chose de tout à fait différent, donc Django Unchained. Quentin Tarantino, Bon, moi je trouve qu'il signe avec Django Unchained un film qui est bon, tout à fait dans la continuité stylistique de sa dernière œuvre, Inglourious Basterds. Donc amateurs de Tarantino et amateurs de western seront comblés puisque les premiers vont y retrouver l'humour, le style, les images somptueuses, parfois violentes du réalisateur. Et puis les seconds, qui évidemment peuvent être les mêmes, on peut aimer Tarantino et les westerns, ils retrouveront tous les codes du western. Alors c'est en effet un western, mais qui a l'originalité de se passer dans le sud de esclavagiste, d'avant la guerre de sécession. Alors il a suscité des critiques diverses aux États-Unis, et notamment parce que certains, et notamment parmi les Noirs américains, lui reprochent d'avoir fait un film un peu flamboyant, d'une imagination délirante, sur un sujet qui est encore douloureux, le racisme et l'esclavage dans les grandes plantations du Sud-Amérique. Donc c'est à noter, mais évidemment, bon, nous n'avons pas cette histoire aussi proche. Jean, je crois que tu as aimé le film, qu'en penses-tu ?
Oui, j'ai aimé le film. Et comme tu le dis, effectivement, il se passe juste avant la guerre de sécession, 2 ans avant la guerre de sécession, le début de la guerre de sécession, dans le sud esclavagiste. Alors, vous avez le docteur Schultz, comme son nom l'indique, il est d'origine allemande, et c'est un vrai chasseur de primes et un faux dentiste. Et dans les premières scènes, on le voit rachetant un esclave noir pour l'aider à identifier des champs qu'il doit capturer pour toucher la prime. Django, l'esclave, se révèle un très efficace assistant. Et le duo improbable de Django et du docteur multiplie les contrats dans une atmosphère hostile, à la fois des blancs et des noirs, qui ne comprennent pas qu'un nègre puisse monter à cheval et avoir une arme. Mais Django, lui, n'a qu'un seul désir, retrouver sa femme, qui répond au doux nom de Brunhild, et qui parle allemand. Enfin, Brunhild, ça c'est la traduction allemande, en fait, c'est Brunhilda, pour plus souple. Cette femme appartient actuellement à un riche propriétaire, Calvin Candy, dont le grand plaisir est d'organiser chez lui des combats à mort entre esclaves. Le docteur Schultz décide d'aider Django à retrouver sa femme car, dit-il, il est rare de rencontrer un authentique Siegfried. Indiscutablement, Django Unchained est un western. Le lieu, l'époque, le sujet, tout le rattache à ce genre bien spécifique. Mais ce film est aussi un remake américain d'un western spaghetti qui est lui-même une contrefaçon d'un western classique. Donc, vous voyez, il y a un petit enchaînement entre le western classique, le western spaghetti et le western de Tarantino. Le titre du film se réfère à Django, un personnage récurrent du western spaghetti, dont l'original, réalisé en 1966 par Sergio Corbucci, est considéré comme un summum de violence dans le western. Il y a aussi d'autres références italiennes, la musique de Morricone, les mouvements de caméra à la Sergio Leone, c'est-à-dire des zooms très rapides et des gros plans improbables. En particulier, vous verrez un gros plan, moi, qui m'a spécialement régalé, c'est quand le Dr. Schultz tire de la bière et les suit avec le truc là. C'est quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, les acteurs ne sont pas en reste et participent largement à la jubilation du spectacle. Après lui avoir apporté une notoriété internationale en lui donnant le rôle du nazi polyglotte cultivé et sadique d'Inglourious Basterds, Tarantino offre à l'impeccable Christopher Waltz celui de Dr. Schultz. Jamie Foxx incarne un très convaincant et séduisant Django. Et aussi, Leonardo DiCaprio se glisse avec un grand plaisir et pour la première fois à notre connaissance dans le rôle d'un méchant. À noter aussi le personnage ahurissant de Samuel Jackson, le plus immonde noir de l'histoire du cinéma américain contemporain, et qui joue le rôle du valet de Leonardo DiCaprio. Vous verrez aussi en entendant l'anglais parfait du docteur s'adressant au cow-boy inculte en face de lui, et aussi à la scène de l'attaque du Ku Klux Klan, qui tourne à une farce digne des Monty Python, quand les agresseurs se rendent compte que les trous pour les yeux de leur cagoule blanche ne sont pas à la bonne place. Voilà, je me suis bien amusé et surtout, il faut voir aussi ce film comme un film antiraciste, essentiellement. Et Tarantino dit qu'il veut régler ses comptes avec Griffith et Naissance d'une Nation.
Elisabeth ?
Oui, alors, ça frappe, ça claque. Bon, ça ne parle pas beaucoup, hein. Mais pour moi, j'y ai vu aussi une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une comédie avec plusieurs niveaux de lecture, hein, avec l'apparence d'un western qui mêle l'humour et la réalité de l'esclavage férocement violent, hein. Ce qui est fabuleux, c'est le mixage qu'il est arrivé à faire. Mixage des gens, mixage des genres, des lieux, mixage des violences aussi. Il traite de la condition avec beaucoup de cette folie pernicieuse du racisme et il nous montre en parallèle, les esclavagistes et les esclaves. Il nous montre le Ku Klux Klan qui existe encore aujourd'hui et qui existe et qui nourrit, qui existe dans une manière totalement ridicule dans ce film. Il y a aussi cette violence crue où le pistolet est toujours prêt à être dégainé. C'est totalement extravagant et on ne croit pas un seul instant que tout cela est vrai. Mais à côté de ça, il faut apprécier le travail qui est fait avec des scènes de pur et de grand, grand western à la John Ford. Des dialogues, il y a beaucoup de négociations dans ce film, toujours en champ contre champ, qui démarrent sur des plans larges pour se resserrer, pour se réélargir. C'est filmé comme s'il voulait rester en retrait par rapport à une situation qui va forcément exploser et cette déflagration qui va arriver derrière. Tout est centré pour aller vers l'action. Et on se demande d'ailleurs tout le temps quand ça va exploser. Et juste à la fin, il y a la violence de la vengeance où le héros va tout faire péter, hein, comme Uma Thurman dans Kill Bill. Voilà, c'est un film génial. Tarantino a su créer un espace d'invention où il a mêlé l'histoire et la magie.
Tatiana ?
Moi, j'ai beaucoup aimé de Django Unchained qui m'a aussi beaucoup fait rire. Mais on peut dire aussi, comme pour La Parade, que c'est un film extrême. Combien de litres d'hémoglobine
de pétards
ont été utilisés ? C'est absolument insensé. Il y a un crime, un meurtre, un assassinat à la seconde. Donc, on a beaucoup reproché à Tarantino de prendre des libertés avec l'histoire. Bon, Django Unchained a essuyé les mêmes types de critiques pour sa façon de présenter l'esclavage, estimant que l'on ne peut pas faire de divertissement avec un holocauste pour reprendre l'argument de Spike Lee. Bon, certes, on n'a jamais vu un chasseur de primes noires dans le Sud avant la guerre de sécession. Mais ce que vise Tarantino, c'est de dénoncer la bêtise et l'inhumanité absolue de l'esclavagisme. Cette scène indignation structure tout le film et lui donne force et cohésion.
Oui, il y a aussi un moment, d'ailleurs Jean l'a signalé, de dérision totale qui est cette attaque du Ku Klux Klan, où en fait il détourne une première fois le code des westerns, puisque c'est les gens du Ku Klux Klan qui tournent autour de la caravane, une deuxième fois, puisque après ça termine dans un burlesque total, quoi. Donc effectivement un film où on peut s'amuser. Alors nous avons quelques minutes encore pour vous signaler nos coups de cœur. Alors, Elisabeth, tu voulais nous parler de deux films, Game is the Loot et Aujourd'hui.
Alors, Give Me the Loot, hein, c'est le premier film de Adam Léon avec une musique de gospel. Alors, Give Me the Loot, ça veut dire passe-moi le fric, à bout de la thune, enfin voilà, d'un vocabulaire que je ne maîtrise pas complètement, mais voilà. Alors, c'est l'histoire de deux graffeurs, deux jeunes Américains, qui décident de relever un défi qui a été lancé par un graffeur star dans les années 80, et il s'agissait de taguer la grosse pomme qui s'élève au-dessus du stade des Mets à New York. Et le gardien du stade accepte de les laisser entrer, mais il veut toucher $500. Et pour trouver cet argent, il déambule dans un New York comme on en a vraiment très très peu vu, un peu comme dans le Gondry ou Rangaine, dans un Paris un peu inhabituel. Et ça donne un pur prétexte pour suivre deux jeunes dans une débrouille à la petite semaine par une belle journée d'été. C'est un film de bricole, d'argent, de pas d'argent, d'arnaque et de contre-arnaque qui sombre jamais dans une vraie délinquance mais qui est très très fertile en termes de dépenses d'énergie. Allez-y avec vos ados, allez-y vous-même et vous serez, vous passerez un bon moment.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui c'est aussi une déambulation, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même thème. C'est le dernier film d'Alain Gomis et c'est un film qui se présente un peu comme une étape d'une quête intérieure. Ça raconte l'ultime journée d'un homme, Satché, qui se réveille un matin avec la conscience qu'il va mourir le soir. Tout le monde le sait, nous on ne le sait jamais, hein, pourquoi il va mourir. Mais sa famille le sait et bien sûr elle est réunie dans la cour de la maison et elle le prépare dans un rituel totalement animiste. Et dans la rue, ses amis viennent à sa rencontre, ils lui font la fête, ils l'escortent et les offrandes pleuvent et il est content. Il traverse la ville et peu à peu, au fil de cette traversée, il traverse sa vie. Avec une scène magnifique quand il demande à un oncle de le laver, l'oncle répète sur lui des gestes rituels. C'est une scène prodigieuse de simplicité et de force qui est puisée dans la tradition musulmane. Et ce que dit l'oncle est tiré du soufisme, c'est magnifique. Quand l'acteur a mimé cet acte sacré, on le regarde et on a l'impression qu'il nous l'avait nous-mêmes.
Jean, tu voulais nous parler de Comme un lion ?
Oui, je vais vous parler de Comme un lion, qui est aussi un peu un film, disons, africain, alors que c'est fait quand même par un réalisateur français, mais dont le héros est un jeune noir, un jeune Sénégalais de 15 ans qui rêve de foot. Il rêve de foot et jusqu'au jour où il rencontre un Camerounais, qui, un recruteur Camerounais qui lui propose d'aller en France. Il arrive en France et là, bien entendu, l'arnaque se découvre et il est abandonné, le pauvre. Et donc, il erre en France jusqu'à ce qu'il rencontre jusqu'à ce qu'il aille à Montbéliard. Et là, il rencontre un entraîneur de club amateur de foot, un ancien professionnel déchu du club de Sochaux, qui va le prendre sur son aile et le porter jusqu'à la consécration. C'est, paraît-il, une histoire vraie. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est un film profondément non raciste. Je ne dis pas antiraciste, je dis non raciste. C'est-à-dire que les bons et les blancs, les bons et les noirs sont blancs ou noirs, indistinctement. Et ça, c'est très fort parce que c'est une rare qualité dans un film de voir justement, de traiter le racisme en négation.
Oui, c'est très vrai. Elisabeth, vous voulez nous dire un mot de Bianca Nieves, très
court. Oui, alors Bianca Nieves ou Blanche-Neige, c'est un chef-d'œuvre visuel où les images et la musique donnent des frissons sur une histoire archi connue. C'est un film muet, original, avec une bande-son magnifique, on entend du flamenco, et c'est juste une musique qui s'adresse directement à votre cœur, c'est totalement bouleversant. On voit de la tauromachie, des scènes de corrida incroyablement cinématographiques dans un mouvement comme un ballet, osmose totale entre le torero, le taureau. On est en Espagne, dans cette Andalousie mystérieuse, des contrastes du noir et blanc fabuleux. Angela Molina, absolument magnifique, qui jouait dans cet obscur objet du désir, et Maribel Verdú, tout aussi magnifique. Voilà, c'est une merveille d'audace, ça montre le pouvoir de fascination du cinéma et sa capacité de communiquer avec le spectateur. C'est magnifique, allez-y.
Et Tatiana, tu voulais attirer notre attention sur un Vajda.
Ah, moi je voulais commencer par vous dire, allez au cinéma, voyez, revoyez Ernest et Célestine, Les Bêtes du Sud Sauvage, Paulette, Aujourd'hui, La Traviata, ou même L'Esclave Libre de Raoul Walsh. Mais ce que je voudrais vous proposer, c'est de ne pas rater le premier film saoudien de l'histoire du cinéma, réalisé par une femme, qui sort en salle le 6 février. Film de Haïfa Al-Mansour, Vajda raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui vit dans la banlieue de Riyad. C'est une fillette libre qui essaye toujours de franchir les limites qui sont imposées à une fille. Justement, elle a une idée. Battre à la course son ami Abdullah. Mais pour ça, il lui faut un vélo. Rien à faire du côté des parents. Et Vajda met tout en œuvre pour faire de son rêve une réalité.
Eh bien, nous irons. Donc, je crois que le temps est venu de rendre l'antenne. Merci à Tatiana, Elisabeth et Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé toutes les quatrièmes vendredis du mois de 14h à 14h30 et nous donnons rendez-vous le vendredi 22 février.
À bientôt.
À bientôt.